Europe 1, en balade avec Renaud Capuçon, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, nous partons en balade avec une star de la musique classique. C'est le violoniste Renaud Capuçon qui vient de sortir un album de musique de film et qui va faire son entrée au musée Grévin. Il passe son temps dans les avions. Renaud Capuçon donne des concerts partout dans le monde, mais c'est à la librairie Lamartine, rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement, qu'il nous a donné rendez-vous.
Europe 1, 11h30, en balade avec Renaud Capuçon. Frédéric Taddeï.
Nous voilà dans la librairie Lamartine où on vend à la fois des sacs, de la papeterie et puis des livres, des dizaines de milliers de livres. Je crois même qu'il y a 1 million de livres. Bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour Frédéric.
Vous n'êtes pas loin de chez vous ici?
Je suis très près, très près. C'est ma bibliothèque, ma librairie.
Je crois qu'il y a 1 million de livres ici.
Ah ouais, c'est extraordinaire, c'est un endroit. Ouais. Voilà, alors. Là, je suis devant le petit coin musique.
Ah oui.
Je commence toujours par là.
Ouais.
Et là, voilà, je cherchais ce livre que je prends tout de suite. Le dernier Tubeuf sur
Rudolf Serkin. Il a dit beaucoup de bien vous, André Tubeuf.
Ah bah c'est sympa. On se connaît depuis plus de 25 ans. Il m'a connu très très jeune. Cette collection d'Actes Sud, dirigée par Dermoncourt, qui est formidable parce que c'est une collection vraiment sur la musique avec un format formidable, pas trop long. Je dis ça pas pour moi, mais pour forcément les gens qui n'ont pas forcément le temps et de lire des choses très complexes sur la musique classique. Ah, puis la biographie de
Barenboim.
Nouvelle biographie de Barenboim que je vais prendre
en
aussi.
En revanche, l'autobiographie de Tina Turner, Philippe Manœuvre, Ma vie est un roman et David Bowie, ça ne vous intéresse pas?
C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que j'ai une pile de livres à lire d'avance, mais hallucinante, qui fait rire ma femme parce qu'elle dit « mais en fait, tu fais des piles, mais tu les lis quand ?» Mais la pile diminue quand même.
Voilà. Vous avez beaucoup de temps de lire dans les avions.
J'ai le temps de lire dans
vous
les avions.
Vous passez combien de temps par an dans les avions?
Je peux simplement vous dire que chaque fois que je vois une hôtesse ou un steward, en fait, ils ont des dossiers sous les yeux dans l'avion. Et ils viennent toujours me voir en disant « mais c'est monstrueux, vous voyagez plus que nous ». Voilà. Et la plupart du temps, dans les avions, je dors. Je commence à lire et au bout d'une heure, en général, je m'endors et je dors le reste.
C'est ce que j'envie le plus dans votre existence, ce sont vos cartes d'abonnés aux lignes aériennes.
Vraiment.
À une époque, j'avais été argent, je me souviens, sur Air France, et j'ai été rétrogradé assez rapidement.
Non, l'avantage, c'est qu'on embarque effectivement de façon plus fluide. On est malheureusement très, très rarement surclassé, je peux vous le dire. C'est un peu un fantasme de penser qu'on a une carte. En tout cas, sur Air France, qui est une compagnie que j'adore et que je... je ne vais pas faire de pub, mais je suis vraiment très fidèle à Air France parce que c'est pratique, parce que c'est pareil. Mais si surclassé plus, ça serait sympa. Là, l'endroit où je vais ensuite, c'est là. C'est actualité. Donc, je regarde un peu.
La politique.
Oui, je regarde des choses générales. Il y a ici, puis à côté, néanmoins. Je suis en fait quelqu'un qui est. Quand je suis dans une librairie, j'ai un peu l'œil baladeur. C'est-à-dire que je regarde partout. J'ai pas, à part le rayon musique où vraiment je. Ensuite, je flâne. J'adore ça. Je pourrais passer des heures dans une librairie, quitte à repartir sans rien avoir acheté. En fait, il y a un vrai plaisir. Alors, je prends les couvertures des livres, je regarde, je lis les. Je lis la dernière page. Et puis, j'aime l'odeur de librairie, j'aime l'atmosphère. C'est encore un des rares endroits où on prend le temps. Alors, même si on n'a qu'un quart d'heure, on prend le quart d'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Alors, on peut aussi procéder comme ceux qui vont au McDonald's, de réserver à l'avance, de juste prendre le truc à partir. Mais je trouve que tout le bonheur de la librairie, c'est le plaisir de regarder. Quoi. C'est-à-dire, ça, c'est un livre dont j'ai entendu parler, de Bastianelli, sur. Qui a une sorte d'hommage à Proust, je sais pas ce que j'ai compris, qui s'appelle La vraie vie de Vinteuil.
Vous aimez Proust ?
J'aime Proust, j'ai pas tout lu pour être très franc. Je suis pas allé au bout, mais il faudrait que je me remette. Après, je suis toujours attiré par le coin un peu plus, je sais pas ce qu'on peut dire, économie, histoire.
Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans la politique, à part le fait que vous avez épousé une journaliste?
Ça m'intéressait bien avant.
C'est-à-dire
je ne sais pas si vous connaissez ce livre, je pense qu'il doit être quelque part par là, mais un livre qui avait été écrit, qui s'appelait La décennie Mitterrand,
oui.
Qui était c'était 4 volumes, qui a été fait par les gens de l'AFP, Favier, et je ne me souviens plus de l'autre nom. Et j'ai eu ça quand j'avais 13 ans. Et donc,
mes héros... si jeune que ça.
non, mais moi je suis né en 76, donc j'avais 5 ans quand Mitterrand
est né sous Giscard.
Exactement. Et en fait, j'avais dévoré ces volumes. Et la première fois que j'ai rencontré Jacques Attali, pour moi, tous les gens qui faisaient partie de ce livre, c'était des héros.
Jacques Attali qui a habité rue de la Pompe d'ailleurs.
Ah oui, ça, je savais pas. Ouais. Maintenant, il est à Neuilly. Mais...
Il y a Brigitte Bardot aussi, habitait pas loin.
Pas mal.
Et le maréchal Joffre, juste à côté.
Ça en savait plus que moi sur mon quartier. Voilà, et puis après, il y a tous les livres que je regarde sans même les. Mais je sais pas, parfois ça me donne même des idées de programmation pour mes festivals. Oui, parce que je peux tomber sur un titre d'un livre qui me rapporte une musique. Enfin, pour moi, la littérature, bien sûr qu'il y a la lecture, mais il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que la littérature vous emmène vers la géographie, vers l'histoire, vous fait voyager.
Là, par exemple, il y a plein de livres sur Napoléon. Vous pensez immédiatement à des compositeurs de l'époque ?
Non, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que tout d'un coup, ça fait une sorte de ricochet sur autre chose. Et ça peut être un livre sur la cuisine. C'est totalement... c'est mon côté surréaliste. Vous savez que j'ai été amoureux pendant très très longtemps du courant surréaliste. J'ai creusé de façon hallucinante jusqu'à de Man Ray à Breton.
Musicalement, c'est pas très intéressant.
Non, musicalement, c'est pas génial. C'est ce qui m'a toujours déçu. Auric et tous ces gens-là, c'est intéressant sur le principe, mais la musique n'est pas passionnante. Par contre, je suis parti d'Éluard et j'ai étendu comme ça autour. Et il y a une époque où j'ai fait de l'écriture automatique, j'étais très branché. Et ça m'arrive de le faire aussi pour mon fils parfois, parce qu'il veut des histoires tous les soirs, évidemment, quand je suis là. Et un jour, je lui ai fait une histoire totalement improvisée qui n'avait pas de sens. Et il a adoré. Maintenant, il me dit, fais-moi une histoire comme l'écriture automatique. Le problème, c'est qu'il faut être inspiré.
Votre fils, s'il se met à écouter du rap, du rock ou de l'électro, qu'est-ce que vous allez faire ?
Je vais le laisser. Il adore Vianney, par exemple. On est loin du rap. Je pense que... D'abord, il a une mère qui est beaucoup plus ouverte que moi sur l'autre musique. Non pas que je sois fermé, mais je le connais moins. Je trouve ça formidable. Il faut être... Et ça serait ridicule de l'enfermer dans un seul... franchement, non, c'est pas le genre de la maison.
Ces deux-là, vous allez les acheter ?
Ah, ceux-là, je vais les acheter. Ouais. J'espère qu'ils vont me faire une réduction. Non, je plaisante.
Mais ça, c'est lourd dans les bagages, les livres. Vous n'êtes pas passé à la tablette ?
J'ai la tablette pour les journaux, mais je reprends quand même toujours les journaux avant de monter dans l'avion. Parce que j'aime le contact du papier, et j'achète des disques encore.
Et puis parce que vous arrivez en avance et que vous savez pas quoi faire aussi.
Aussi, vous avez raison.
Eh bien, nous allons payer vos livres et partir en balade
avec grand
plaisir. Renaud Capuçon.
Frédéric Taddeï en balade avec Renaud Capuçon sur Europe 1.
Europe 1 et Frédéric Taddeï vous proposent au cœur de l'expo des visites exclusives d'expositions retransmises au cinéma. À partir de ce dimanche, retrouvez dans votre ville la visite de l'exposition Caravage. Frédéric Taddeï vous emmène visiter l'exposition événement du musée Jacques Marandré. Alors rendez-vous dès aujourd'hui pour une séance unique dans votre cinéma. Vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et le violoniste Renaud Capuçon dans le 16e arrondissement. Et alors, vous allez entendre que Frédéric en sait beaucoup sur les gens qui y habitaient.
Eh bien, nous voilà rue de Longchamp avec Renaud Capuçon, une rue... alors, moi, je suis spécialiste pour vous dire qui habitait ici. Vous voulez savoir, parce qu'il y a plein que vous connaissez. 500 habitait ici.
Mais non.
Si, Feydeau habitait ici.
Ah ouais.
Il y a Jacques-Henri Lartigue, le célèbre photographe. Il y a Théophile Gautier, il est même mort. Et puis de l'autre côté de la rue, c'est le lycée Janson de Sailly. Vous y avez étudié ?
Non, moi j'ai travaillé jusqu'en quatrième à Chambéry. Et ensuite, j'ai travaillé par correspondance. J'ai passé le bac par correspondance. Donc j'ai travaillé.
Un Savoyard.
Je suis un Savoyard, fier de l'être.
Vous venez d'enregistrer un album de musique de film. J'ai l'impression que c'est devenu le nouveau dada des musiciens classiques. Je me souviens d'Itzhak Perelman.
Perelman, ça fait plus de 15 ans, presque 20 ans.
Yo-Yo Ma
aussi.
Avec son album sur Ennio Morricone. Même Lang Lang a enregistré la musique de Spider-Man.
Ça c'est toujours fait, en fait. Je pense qu'il y a eu...
Vous êtes sûr, vous pensez que Isaac Stern, dont vous avez le violon aujourd'hui, et Arthur Rubinstein enregistraient la musique de Star Wars?
Rubinstein, je ne sais pas. Isaac Stern, il a joué dans un film... Lui-même, il a joué la musique du film. C'était un film qui s'appelait Humoresque, à l'époque, dans les années 70. Il a joué le rôle d'Isaïe dans un film. Je suis persuadé que Stern vivant serait absolument pour. Ça, pour le coup, Rubinstein, j'ai aucune idée, je ne le connais pas.
Mais vous êtes persuadé que Mozart, si le cinéma avait été invité, aurait composé de la musique pour le film?
Mais ce n'est pas persuadé, mais je me dis... Vous savez, la première personne qui a composé de la musique de film, c'est Camille Saint-Saëns.
Ouais.
Très franchement, si Mozart avait connu le début du cinéma, mais qui nous dit que ce n'est pas mis au service de la musique de film ?
Philippe Glass a enregistré, a composé de nombreuses musiques de films.
Mon exemple favori, c'est Korngold. Korngold, c'est ce grand compositeur autrichien qui fuit le nazisme en 1939, qui part aux États-Unis et qui se met à finalement écrire de la musique de film, mais il continue à écrire sa propre musique. Il était déjà une star en Autriche, et ensuite il devient la star de Hollywood parce qu'il écrit, toute la musique pour les films.
C'est les aventures de Robin des Bois que vous avez enregistrées sur cet album.
Absolument. Et mais il écrit un concerto pour Yasha Heifetz, il écrit des symphonies, etc. Et quand il revient en Europe 15 ans après, c'est une véritable star. Et il a souffert quand même ensuite, après sa mort, d'être étiqueté un peu un compositeur comme ça, brillant, musique de film. Et maintenant, il est revenu à sa juste place de compositeur tout court.
Mais alors, quelle est la différence pour vous, il doit bien y en avoir, entre tous ceux que vous avez enregistrés là, Ennio Morricone, Michel Legrand, Alexandre Desplat, John Barry ou John Williams, avec Bach, Beethoven, Ravel, Debussy ou Saint-Saëns, que vous avez enregistrés également. Est-ce qu'il y a une différence dans la musique, à part le fait que la musique dure moins longtemps?
Voilà, la première chose, c'est le timing. Tous ces thèmes dont vous avez parlé, c'est 4 minutes. Ouais. Donc c'est ce qui fait aussi que le format est très attrayant pour les gens qui ne connaissent pas forcément la musique classique, parce qu'ils peuvent y aller assez facilement et sans aucune peur. Ensuite, bien sûr que toutes les œuvres dont vous avez cité les compositeurs sont des œuvres qui s'allongent dans le temps. Une symphonie de Brahms, ça dure 45 minutes. Une sonate de Schubert pour piano, ça peut durer 50 minutes. Donc on n'est pas dans la même durée, on n'est pas dans la même développement, on n'est pas dans la même complexité non plus d'écriture.
C'est moins complexe. Est-ce que ça veut dire que c'est moins riche?
Non, parce qu'il y a certaines œuvres, vous prenez certaines œuvres de John Williams, vous prenez certaines œuvres de Shostakovich pour le cinéma, elles peuvent être extrêmement complexes. Mais c'est vrai que pour le cinéma, ce qui doit ressortir, c'est des thématiques extrêmement fortes tout de suite et qui doivent pouvoir être reprises et chantées, etc.
C'est fou, il y a nombre de films qui, sans la musique, ne tiendraient pas.
Hein, c'est étonnant
à quel point on serait moins triste.
Oui, c'est vrai.
Bon, mais il y a la pluie aussi. Vous avez remarqué
c'est vrai.
On veut nous faire pleurer au cinéma, on met de la pluie.
Mais il y a aussi quand même, je pense qu'il y a certains films qui, effectivement, sans la musique, n'auraient pas eu le succès qu'ils ont
eu. Mais en même temps, vous voyez bien comme il y a une mauvaise image du violon qui est liée au cinéma. On dit toujours au cinéma, si vous voulez faire pleurer le spectateur, envoyez les violons.
Oui, ça, c'est des expressions, parce qu'on dit aussi terminer au violon, parce qu'il est en prison. Donc ça, c'est plus une expression. Mais non, plus sérieusement, je crois que le violon est un instrument extraordinaire parce que d'abord c'est l'instrument des tziganes, c'est l'instrument des violonistes, des musiciens qui ont cet instrument tout le temps avec eux, qui peuvent se promener. Donc, c'est un instrument qui a voyagé beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que le piano, etc.
Une des raisons pour lesquelles souvent les juifs ont joué du violon, parce qu'on pouvait fuir avec son violon quand on était persécuté.
Et donc il y a toute cette histoire autour qui en fait quelque chose d'assez incroyable, d'assez magique. Et puis c'est un instrument extraordinaire, c'est un instrument qui chante. C'est quand même un instrument où vous pouvez, si, quand il est bien joué, parce que c'est paradoxal aussi, quelques notes de violon, si elles sont bien faites et au bon moment, je dirais, peuvent vous faire pleurer, vraiment.
Alors moi j'adore le violon, parce que depuis que j'aime la musique classique, mais j'ai toujours trouvé que c'était le parent pauvre de toutes les musiques qui l'ont suivi, c'est-à-dire le jazz. Le violon est quasiment inexistant.
Écoutez Grappelli, les centaines d'albums de Grappelli, c'est quand même extraordinaire.
Ce ne sera jamais John Coltrane ou Miles Davis.
Je suis d'accord, peut-être par là.
Enfin, et puis le rock aussi, même s'il a eu de temps en temps recours au violon, c'est quand même, quand on se met au violon à 4 ans, comme ça avait été votre cas, et qu'on devient un grand violoniste, on sait qu'on va jouer du classique toute sa vie.
Ça, c'est clair.
Avec la possibilité, de temps en temps, de faire un album de musique de film.
Oui, ou autre. Regardez, Didier Ocoud a été un formidable violoniste de jazz. Il nous a quittés récemment. Mais je reviens à Grappelli. C'est quand même... Il y en a eu d'autres. Il y a eu Ponty aussi. Mais Grappelli est le grand violoniste de jazz, quand même, qui a joué avec tous les plus grands et qui a cette sonorité reconnaissable parmi mille. Il a un grain de son incroyable. Et non, alors après, dans le rock, oui, il y a très peu de violon. Mais parce que peut-être que le violon chante trop, d'une certaine façon.
Il y a pas ce côté, c'est pour ça ?
Je sais pas. Je me suis jamais posé la question.
Nous voilà à avenue Georges Mandel.
Face à la
fondation la rue des Sablons. Et là, il y a cette fondation, la fondation
Saint-Gère-Polignac.
Qui est là, qui est spécialisée dans le mécénat. Vous avez été mécéné, comme on
alors,
dit maintenant.
Non, pas du tout. C'est une fondation maintenant qui est donc qui date de l'époque de la princesse de Polignac. Il faut savoir que on va voir des photos à l'intérieur, mais tout le monde est venu là. De Fauré à Debussy, à Stravinsky, tout le monde a eu des créations, tout le monde a été joué. à cette époque-là. Les grands écrivains venaient.
Je crois que la pavane pour une enfant de défunte de Ravel est dédiée à la princesse de Polignac.
Et puis, il y avait, c'était un haut lieu de discussion, de culture, de rencontre, etc. Donc, c'est un endroit assez magique. Vous allez voir qu'il est magnifiquement conservé. Et depuis quelques années, ils font leur mécénat consiste à héberger, je dirais, de façon... Pas pour dormir, mais on est plus d'une centaine de musiciens à être, entre guillemets, en résidence. C'est-à-dire qu'on peut venir, si on s'inscrit à l'avance, on peut venir travailler ici. Moi, j'ai passé toute la journée hier à la bibliothèque, qui est sublime, à répéter un des derniers quatuors de Beethoven. Et on est dans un cadre magique.
On est au 43 avenue Georges Mandel, hein, Fondation Saint-Gerve-Polignac. Il y a une plaque créée le 25 mars 1928 par la princesse Edmonde Polignac, née Vinaretta Saint-Gerve.
On dit Saint-Gerve. Ouais.
C'était une Américaine. Vous savez comment on la surnommait ?
Non.
Vinaigretta.
Ah, Vinaigretta.
Parce qu'elle avait, elle avait des réparties, par
exemple. Oui, absolument.
Assez terribles. Europe 1. Bon, on se retrouve à l'intérieur juste après ça.
On rejoint Frédéric Taddeï et Renaud Capuçon dans une célèbre fondation dédiée aux arts, aux lettres et aux sciences.
Nous voilà donc dans la fondation Saint-Gerve-Polignac. Qu'est-ce qu'on entend là en montant les escaliers ?
On entend une voix magnifique, une voix qui chante un air baroque. Si ton oreille ne me fait pas défaut, j'ai l'impression qu'il y a un orchestre, voilà. Il y a un ensemble en tout cas. Et ça, ce qu'on entend, c'est dans la salle, cette sublime salle... qu'on peut peut-être juste apercevoir sans déranger la répétition.
Donc ce sont de vrais musiciens, ça n'est pas
un
disque.
Non, c'est pas.
Ils sont en résidence, comme vous disiez.
On va les écouter quelques secondes.
C'est le salon de musique.
Donc là, c'est cette salle où ont lieu énormément de concerts et de créations. Une salle... vraiment mythique, où on met, je pense, à peu près une centaine de personnes. Et puis, donc, il y a des répétitions ici et des concerts. Et maintenant, on va dans un autre lieu qui est la bibliothèque, je crois. On va monter dans la bibliothèque, donc on va se diriger vers cet escalier. Alors, c'est toujours émouvant d'être là parce qu'on, quand on connaît un peu ce que les murs ont dû entendre ou réceptionner comme musique, on se dit qu'on se sent tout petit, en fait. Ou alors, on se sent la continuité de cette espèce de grande famille de musiciens qui ont été hébergés par cette fondation incroyable.
Arthur Rubinstein, on en parlait tout à l'heure, a été aidé par la princesse de Polignac.
Je pense qu'à l'époque, de son vivant, elle aidait personnellement elle-même.
Oui, tout à fait. Elle commandait des œuvres.
Elle commandait des œuvres, elle était très investie.
Et là, on est dans l'hôtel particulier qu'elle a habité jusqu'à sa mort, parce que la fondation date de 1928, mais l'hôtel particulier lui a été légué à la mort de la princesse.
C'est ça. Voilà, donc là, on va vers la bibliothèque. Il y a un lieu où j'adore répéter, le Quatuor à cordes notamment.
Les riches savaient vivre.
Exactement.
Là, on parle d'ultra-riches.
Donc, voilà la bibliothèque.
Bonjour. Il y a des musiciens partout. Même dans
c'est ça qui est génial, c'est que c'est une ruche de musique ici. Et voilà, donc c'est toutes ces boiseries sublimes.
Voilà, tous les murs sont lambrissés de bois.
Il y a un puits de lumière en haut et on donne sur l'avenue Georges Mandel, sur les jardins. Et travailler ici, ce sont des conditions de rêve. Ouais. Les volumes sont beaux.
Je crois qu'elle était donc l'héritière américaine de Saint-Gerre, les machines à coudre. Vous savez combien elle avait hérité ?
Non.
3 milliards d'euros. Ouais. Enfin, en équivalent de monnaie aujourd'hui. Hein.
Ça fait rêver.
Oui, ça fait assez rêver.
Voilà, en tout cas, pour vous montrer à quel point on est heureux. Et moi, je suis toujours très fier de pouvoir travailler ici parce que c'est... D'abord, je suis à 50 mètres de la maison, donc c'est un bonheur et un confort incroyable. je suis vraiment très près d'ici. Je pose mon fils à l'école, et ensuite je vais répéter toute la journée. Et c'est magnifique que plein de jeunes, vraiment d'innombrables jeunes depuis une quinzaine d'années, puissent répéter ici. Et ça s'est développé, c'était pas le cas avant. C'est devenu vraiment, c'était avant une maison pour recevoir des concerts, des colloques, etc. Et depuis l'arrivée d'Yves Petit-Devoise, ça s'est vraiment ouvert. Aux musiciens et à ce phénomène de résidence qui fait que la maison vit en permanence. Voilà, là, on se dirige par les couloirs vers l'atelier.
On traverse des cuisines. Qui est... Il y a des gens qui déjeunent, d'ailleurs.
Oui, là, je crois qu'il y a un petit déjeuner. Hein. Non, c'est pas par là. Si, c'est comme ça. Voilà. Et là, on est dans le jardin de la Fondation, qui est splendide. L'été, c'est merveilleux. C'est là où les musiciens font des pauses. Et juste là, derrière la vitre, il y a l'atelier de la rue Cortambert, qui donne donc de l'autre côté, et qui est cet atelier. Moi, j'ai d'ailleurs enregistré l'intégrale de la musique de chambre de Forêt dans cet atelier, où Forêt lui-même a joué du piano et a composé. Donc, c'était très émouvant.
Vous aimez le 16e arrondissement ?
J'aime le 16e arrondissement pour vivre. C'est drôle parce que j'ai toujours eu un a priori négatif avant de le connaître.
Bah, souvent, comme tout le monde dit du mal.
Oui, en disant le 16e, c'est comme ci, comme ça. Et en fait, j'y vis depuis 10 ans et j'y suis merveilleusement bien. C'est comme un havre de paix ici. Il y a une qualité de vie incroyable. Et puis, je pense qu'on s'habite. C'est évidemment que moi, j'ai habité avant l'hôtel de ville, j'ai habité à la Cité des Arts, j'ai habité ensuite au Batignolles, donc des quartiers très différents.
Et pour Saint-Maurice, où vous avez habité aussi ?
Non, je suis né à Chambéry. Oui.
Mais vous n'avez pas grandi à...
Non, j'ai grandi à Chambéry. Mes parents sont nés à Bourg-Saint-Maurice. Mais j'ai été aux Arcs, au Festival des Arcs. C'est très différent. On passe d'une petite ville de province à la capitale.
Oh, Chambéry, c'est une jolie ville.
C'est une très jolie ville, mais c'est la province. C'est-à-dire, c'est 100 000 habitants, c'est une toute petite ville, quoi.
Vous avez pu apprendre le violon à Chambéry
J'ai appris le violon à Chambéry, avec des super profs. Et puis ensuite, bien sûr, comme le système français est fait comme ça, je suis monté vers la capitale.
Est obligé.
Bah, c'est pas obligé, mais il y a ce système. Il y a les deux conservatoires supérieurs de Lyon et de Paris qui font que, voilà, pour le prof que je voulais, il fallait aller à Paris. Donc je suis monté à Paris. Aujourd'hui, depuis Erasmus, etc., tout est très différent. Vous pouvez faire un conservatoire régional ou national et puis ensuite partir à Cologne, à Londres, à Francfort, si vous avez une bourse et vous avez des équivalences. Alors qu'avant, c'était le premier prix de Paris. Il faut avoir son premier prix de Paris qui faisait soi-disant la pluie et le beau temps, ça faisait rien du tout. Ça,
vous avez
mis ça dans votre CV. Oui, je l'ai eu. Vous aviez ça dans votre CV. Et après, il faut tout prouver. Tout reste à faire.
Il y a un peu de bruit, évidemment, dans ce jardin merveilleux, parce qu'on est à Paris et qu'il y a des travaux.
Il y a des travaux, tout simplement.
Forcément. Et écoutons un extrait de votre dernier album.
Avec plaisir.
Si on écoutait le fabuleux destin d'Amélie Poulain, la musique de Yann Tiersen, vous l'avez évidemment enregistré. Thank you. C'était Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, la musique de Yann Tiersen, enregistrée par Renaud Capuçon. On se retrouve dans un instant, toujours à la Fondation Saint-Gervais-Polignac.
Europe 1.
Le violoniste Renaud Capuçon continue à vous faire visiter la Fondation Saint-Gervais-Polignac avec Frédéric Taddeï.
Là, on est dans l'atelier Cortambert et donc on a Justin Taylor qui est un merveilleux jeune claveciniste qui est en train de travailler. On va le laisser travailler tout de suite.
Très beau clavecin.
Et donc dans cet endroit, on a enregistré l'intégrale Forêt, il se passe des enregistrements, il se passe plein de choses. Et c'est dans cet endroit aussi qu'ont eu lieu plein de concerts privés à l'époque, peut-être encore plus que dans le salon de musique. Et c'est un endroit qui est très habité, qui est très, on se sent bien, on sent sécurité ici.
Mais parmi tous les endroits dans lesquels vous avez donné des concerts, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué?
Je dis toujours que ma salle vraiment préférée, c'est le Musikverein de Vienne, parce qu'il y a quelque chose de magique, vraiment magique, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le Suntory Hall de Tokyo qui est incroyable. Après, ça dépend, c'est pour l'acoustique. Là, je vous ai parlé d'acoustique. La Philharmonie de Paris est une des plus belles acoustiques du monde maintenant. Il y a d'autres salles aussi magnifiques que la Philharmonie de Berlin. Mais des lieux comme ça sont des lieux habités. Il y a ce lieu-là, il y a un lieu comme le festival de Schwarzenberg qui est en Autriche, dans un petit endroit tout petit à Schwarzenberg où il y a 300 habitants. Ça, c'est des endroits où faire la musique devient magique. Werkstatt, dans mon festival et dans cette église Zanen où Menuhin y a été pendant une trentaine d'années. Vous ne jouez pas de la même façon dans ces endroits que dans une grande salle de concert, parce que vous êtes au milieu de la nature, parce qu'ici, on n'est pas au milieu de la nature, mais on se sent dans un autre siècle, quoi. On a l'impression qu'on fait un voyage dans le temps, en fait. C'est ce que j'aime dans cette fondation.
Et Renaud Capuçon, vous êtes aussi arrivé donner des concerts dans des lieux qui ne sont pas des salles, où il n'y a pas d'acoustique,
ah oui,
a priori. Et qui, je crois que vous avez donné plusieurs concerts dans le désert, par exemple. Et ça sonne comment, dans le désert?
Alors, dans le désert, là, j'ai été en Arabie Saoudite récemment, et c'était un endroit qui était... Il y avait une salle, ils avaient construit une salle éphémère, mais ils avaient construit une salle. Mais ça m'est arrivé de jouer, effectivement, dans des plein air complètement incroyables, de jouer en Israël, en plein air, de jouer dans des endroits incroyables, ou de jouer en plein air, mais juste comme ça, pour le plaisir, pour quelques minutes, dans des paysages sublimes, au bord de la mer. Bon, c'est plus compliqué si on joue du clavecin ou du piano, mais l'avantage du violon, c'est qu'on peut tout d'un coup, vous allez parfois vous promener, et comme j'ai très souvent mon violon avec moi, vous avez quelqu'un qui dit « Ah, mais tu veux pas jouer 3 minutes ?» Alors, souvent, je dis non, mais quand l'endroit est magique, et qu'il fait pas trop froid ou trop chaud, je le fais. On va les laisser travailler, je pense. Hein.
Merci, bonne journée. Vous avez joué à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'était le 11 novembre dernier, sous l'Arc de Triomphe. Vous étiez avec Yoma, d'ailleurs. Vous aviez joué quoi?
On a joué, chefs d'État. On a joué du Ravel, parce que c'était un compositeur qui était lié à cette grande guerre. Et puis, c'était une œuvre pour violoncelle qui était extrêmement grave, austère, et qui se prêtait bien. Bon, c'était un moment incroyable.
Très particulier.
Très particulier. Ça ne ressemble à aucun moment de musique que j'ai eu dans ma vie. Parce qu'il y avait d'abord le fait d'être sous cet Arc de Triomphe, qui est que physiquement, on est presque écrasé, avec ou sans instrument. Le fait qu'on soit simplement... On y marche rarement, mais c'est vrai, quand amusez-vous à y aller, passez dessous, vous verrez à quel point on est c'est étrange comme sensation. Et puis il y avait l'événement historique, d'endosser cette responsabilité, de rendre hommage à tous ces morts au champ de bataille. Et puis le présent et le futur, d'avoir à 3 mètres tous ces chefs d'État qui vous regardent, et puis au-delà de ça, tous les gens qui vous écoutent, en sachant que c'est un hommage. Ils ne vous écoutent pas vous, ils écoutent l'hommage. Donc c'est pas un track qui était un track personnel, mais c'était un track historique. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais quelque chose de complètement...
On doit se dire, là, la guerre se termine vraiment maintenant.
Il y avait quelque chose de très spécial, très étrange, de voir assis côte à côte Poutine et Trump, de voir tous les... Il y avait 80 chefs d'État qui sont pas tous d'accord sur tout, loin de là. Déjà à l'époque, encore moins maintenant. Et donc on est pendant quelques minutes... les acteurs d'une actualité qui se passe là. C'est-à-dire que c'est pendant cette heure-là,
c'était
un peu le centre du monde. Voilà. Et non pas qu'on se prend pour le centre du monde, ça n'aurait aucun sens, mais on fait partie d'un moment d'histoire. Voilà. Beaucoup plus que si on donne un concert à Londres, New York ou Tokyo.
Quand vous jouez une musique aussi émouvante, est-ce qu'il vous arrive vous-même d'être ému jusqu'aux larmes?
S'il l'interprète et lui-même ému, alors l'émotion passe pas. C'est-à-dire que c'est comme si des acteurs se font plaisir et se faisaient rire sur scène, je pense que le public ne comprendrait pas, il se sentirait exclu. C'est un peu la même chose avec nous. J'ai une expérience comme ça quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai joué dans un orchestre de jeunes et le chef d'orchestre, dans une symphonie de Mahler, dans le mouvement lent, s'est mis à sangloter. Il a été bouleversé par un passage de l'œuvre et l'orchestre entier a été complètement perdu. Bien sûr qu'on a continué à jouer, mais de voir notre chef d'orchestre être dans cet état d'émotion nous a totalement en fait déstabilisé, et je suis pas sûr qu'à ce moment-là le public ait ressenti la même émotion que le chef. Donc c'est très paradoxal. Et le lendemain d'ailleurs, il s'était excusé en disant que c'était hors contrôle. Et donc je pense que c'est un vrai exercice, parce que parfois la musique peut nous bouleverser. Je veux dire, en tant qu'auditeur, la même musique peut me faire pleurer. Évidemment. Mais en tant qu'interprète, il faut être le vecteur de cette émotion et le faire passer de manière être vraiment un seul vecteur. C'est assez complexe comme exercice.
Vous me parlez de chef d'orchestre. Quel est le rapport d'un soliste tel que vous avec le chef d'orchestre? Est-ce que vous suivez véritablement ses indications quand vous jouez du violon? Vous le regardez?
Non, moi je regarde très peu les chefs d'orchestre quand je suis dans ma position de soliste. C'est une connivence avec un sixième sens. C'est un peu comme quand je joue avec Martha Argerich. On se regarde pas et pourtant on est totalement ensemble avec ce que j'appelle le sixième sens, parce que c'est comme une chose qui est au-delà de l'apprentissage, de la connaissance, de l'écoute. C'est autre chose encore. Avec les chefs d'orchestre, c'est pareil. Ça vient peut-être des ondes qu'on dégage. De plus en plus, je joue et je dirige moi-même du violon. Donc là, je suis l'artisan seul aux commandes, je dirais. C'est pas pour une question de pouvoir, mais c'est pour une question de liberté. C'est vrai que pour certains répertoires, comme les Mozart, même jusqu'au Beethoven, etc., vous avez une notion de liberté totale, puisque vous êtes ce que vous exprimez et suivi directement par l'orchestre sans intermédiaire, je dirais. Mais quand vous jouez le concerto de Brahms ou le Sibelius ou le Tchaïkovski, vous avez besoin d'un chef d'orchestre, parce que la masse orchestrale est trop importante.
Nous allons quitter cette fondation Saint-Gerre-Polignac et continuer cette balade. Vous nous emmenez où
Je pense qu'on va dans un endroit que je chéris particulièrement, qui est Carrette, où je fais beaucoup d'interviews et beaucoup de rendez-vous.
Place du Trocadéro.
Frédéric Taddeï continue sa balade avec Renaud Capuçon sur une célèbre place du 16e arrondissement qui offre l'un des plus beaux panoramas de Paris.
Nous sommes avec Renaud Capuçon, place du Trocadéro. On s'approche de chez Carrette. Renaud Capuçon a une casquette de baseball sur la tête. C'est parce que vous faites votre entrée au musée Grévin que
non,
que vous mettez une casquette pour pas qu'on vous reconnaisse.
Non, vous savez, l'avantage du classique, c'est que personne ne me reconnaît jamais. Donc ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Non, j'aime bien avoir une casquette très souvent en voyage, en fait. Et j'ai cherché longtemps avant d'en trouver une qui convenait à ma tête. J'avais pas une tête à casquette. Celle-là, je l'aime bien. Voilà, c'est tout simplement aussi pour protéger un peu du froid.
Qu'est-ce que ça oblige à quoi de faire son entrée au musée Grévin?
Oh, rien, c'est d'abord quand on me l'a... Oui, à poser, bien sûr, oui,
ça y est, je vais faire une... De cire.
Oui, il y a une grande séance de pause qui va durer quelques heures, plus une deuxième séance, il faut amener un costume qu'on va laisser sur place, on abandonne un de ses costumes pour habiller le mannequin.
C'est vous qui payez votre costume.
C'est normal. Non, mais je l'ai pris avec beaucoup
Il faut s'attendre aussi à une grande déception le jour où on va se découvrir, non?
J'en sais rien, je sais pas à quoi m'attendre. Ce qui était assez étonnant, c'est quand on m'a appelé, quand Stéphane Bern m'a appelé pour me demander si j'étais d'accord, d'abord j'ai cru à une blague, vraiment.
C'est Stéphane Bern qui s'occupe des entrées au musée Grévin.
C'est pas lui qui s'occupe des entrées, il est dans le comité, je crois qu'il est président du comité, il y a un vote très sérieux, avec, il me dit, tu as été élu par le jury à l'unanimité, etc. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Et il était très sérieux. Et
il faut être très connu des enfants, moi, je croyais, pour en faire son entrée au musée Grévin.
Je ne sais pas.
En tout cas, les enfants, en général,
je n'avais jamais.
Tel ou un tel.
Mais s'il y a une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, c'était ça. Mais jamais, même pas en rêve. Je veux dire, c'était une chose qui n'existait pas, quoi. Et voilà, bon, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie, mais c'est extrêmement honorifique et très sympathique, bien sûr.
Nous voilà devant chez Carrette. Il y a quelqu'un qui vous fait des grimaces, vous le connaissez?
C'est Dominique Buzet, c'est mon cher collègue.
Bonjour, Dominique.
Comment allez-vous?
Ça va?
Donc, nous voilà chez Carrette, le pâtissier de la place du Trocadéro. J'imagine que vous allez prendre une tarte aux myrtilles.
Non, ah oui, parce que je suis savoyard. Ah, le méchant cliché. Non, j'essaye de résister à toutes leurs... Je craque très souvent sur l'opéra. Je veux dire qu'ils ont le meilleur opéra que je connaisse.
Non, ça c'est Aix, le festival.
C'est vrai, le meilleur opéra est Aix.
Carrette est plutôt célèbre pour ses macarons de toutes les couleurs.
C'est vrai.
Mais aussi pour son carrelage en mosaïque, ses dorures, ses éclairages en verre dépoli.
Et quand il y a du soleil sur la terrasse, c'est magique. Ça a l'avantage aussi d'être très proche de la maison. C'est un endroit où je fais quasiment toutes mes interviews et mes rendez-vous professionnels ou privés, ou quand j'ai des amis à voir. C'est un endroit qui fait partie maintenant vraiment de mon côté parisien. Quoi, voilà.
Alors présentez-nous Dominique Bluzet.
Dominique Bluzet qui est assis à côté de moi. Eh ben, Dominique, c'est le directeur de plusieurs théâtres, du Grand Théâtre de Provence, du Théâtre du Jeu de Paume, du Théâtre du Gymnase, du Théâtre des Bernardines.
De théâtre à Marseille et à Aix-en-Provence.
Exactement. Et ensemble, on a créé le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui est une aventure qui a 7 ans aujourd'hui et qui est une belle aventure qu'on fait tous les deux avec l'aide extrêmement importante du CIC, puisqu'ils sont notre mécène et qui nous permettent d'imaginer des programmations chaque année différentes. Et on a un rapport, depuis la première fois qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, on a un rapport basé sur de l'amitié, sur une fidélité. Et dans le travail, on a quelque chose de très fluide. Alors, on s'engueule parfois. Enfin, on s'engueule pas. Parfois, on se chamaille sur des petits détails. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que d'abord...
Pour tel ou tel musicien qui veut inviter, qui risque de vous faire de l'ombre.
Non, alors ça, au contraire, ça, c'est bien. Moi, j'invite énormément de musiciens qui me font de l'ombre parce que j'adore l'idée d'inviter des gens plus connus que moi et plus célèbres que moi et meilleurs. Et ça ne me pose pas de problème. Non, c'est plus sur des choses où il a toujours raison, d'ailleurs, des questions, sur toutes les questions qu'il maîtrise mieux que moi. Et là où on est un bon duo, je pense, c'est qu'on est... extrêmement complémentaire.
En fait, la première fois qu'on s'est vu, on avait la même veste et on s'est dit que si on en prenait une, c'est pas grave, elle serait pareille. Et on a vraiment développé quelque chose. On n'est pas de la même génération, on vient pas du même endroit. J'étais un acteur, il venait du monde de la musique, mais on a réussi une alchimie très particulière où on se comprend. Chaque année, je vais le retrouver au bout du monde, on s'enferme à Sydney, à Chicago, etc. Là où il fait des concerts, je vais le voir. On passe du temps à rêver, on rêve ensemble et on réalise ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à la fois à être dans quelque chose de très prosaïque et en même temps de très utopique, de très festif. Pour nous deux, je crois que la musique, c'est de la joie.
Ça va être du 13 au 28 avril, le Festival de Pâques, qui est prévu cette année.
On commence par Renaud Capuçon et on termine par Renaud Capuçon.
Général, il en profite pour commander une œuvre...
Pas tout le temps, pas cette année.
Vivant, pas cette année.
Mais on a énormément de musiciens formidables. Je veux bien un Lapsang Souchong, s'il vous plaît. Bonjour.
Eh bien, je vais prendre la même chose. Dominique, vous avez déjà le vôtre.
Et on invite, cette année, on a par exemple la présence de Théodore Currensis avec son ensemble, qui est un chef d'orchestre vraiment très particulier. Mais on a aussi Arkady Volodos, on a Nelson Frère, on aura le Requiem de Verdi, le Requiem allemand de Brahms. D'innombrables jeunes, parce qu'on donne une grande place aux jeunes, pas sous forme d'académie ou parqués dans un coin avec des concerts jeunes, pas du tout. On les intègre complètement. Dès la première année, on a lancé cette opération qui s'appelle Génération at Aix, où on invite quelques jeunes qui sont parrainés, je dirais, par un musicien plus aguerri et qui restent pendant 3 jours à travailler avec eux. Et puis, il y a des masterclass, il y a beaucoup de choses pour les jeunes.
C'est drôle parce que je trouve que c'est un rêve de musicien classique d'avoir un festival. Jamais un rocker ou un jazzman n'a eu envie d'avoir son festival.
C'est vrai.
Mais je crois que vous en aviez parlé d'ailleurs. Je vous avais reçu sur Europe 1 au moment pour le festival de Pâques. Vous me disiez, c'est l'envie de créer quelque chose.
Oui.
Et un musicien classique.
Parce qu'on n'est pas des créateurs. C'est vrai qu'il y a ça aussi.
On n'est qu'un interprète. Et là, tout à coup, vous créez une programmation.
Oui,
vous mettez des gens ensemble.
On n'est pas compositeur. Mais c'est vrai que tout d'un coup, il y a une invention qui est faite d'une chose qui existe. Parce que vous l'avez pensé, alors que s'il avait été pensé par quelqu'un d'autre, ça serait complètement différent, effectivement.
Et il y a quelque chose cette année de formidable, c'est que quand on a commencé, on rêvait de faire d'Aix le Salzbourg français. Ça a fait rigoler tout le monde. Mais cette année, la Mozart Voreux vient pendant 4 jours à Aix-en-Provence. Et l'autre grand item de Salzbourg, qui est l'orchestre du Festival de Pâques, la Stadtkapelle de Dresde, elle sera là aussi. Donc les deux principaux acteurs de Salzbourg, ils seront à Aix en même temps.
Bravo.
Et ça, c'est une grande fierté de dire... qu'on est un pays français qui a été capable de se hisser à un niveau germanique en matière de musique classique. Et ce n'était pas acquis d'avance.
Et ça s'est fait de façon très naturelle, puisqu'en fait, ce sont mes liens avec la Mozart Voreux qui ont fait que Orlando Villazón nous a proposé cette résidence. Et puis, la Staatskapelle de Dresde qui vient aussi. C'est vrai que c'est étonnant. Ils sont eux-mêmes en concert au Festival de Pâques de Salzbourg au même moment que nous. et ils prennent le temps de venir pour donner deux concerts chez nous. Ce que je trouve incroyable. C'est complètement incroyable.
Vous avez écouté son album consacré aux musiques de films?
J'ai été le voir à l'Olympia. Parce qu'il a fait l'Olympia. C'est quand même ça un rêve de
musicien classique. Un jour, je ferai l'Olympia.
C'est rarissime. Et c'était extraordinaire parce qu'il avait ses fans qui étaient là. Et il y avait des gens de toutes les générations. Et la musique de film, c'est de la grande musique classique. Et c'est moi qui lui ai demandé de faire ce concert à Aix. Je voulais qu'on commence par ça pour qu'on comprenne bien que les gens qui écrivent pour la musique classique, c'est des grands compositeurs.
On va écouter l'extrait de Twilight, la musique d'Alexandre Desplat, que vous interprétez.
On a commandé une œuvre, Alexandre Desplat, pour Renaud.
Mais celle-ci, il ne l'a pas faite pour Renaud, mais Renaud l'interprète pas mal, on va l'écouter. C'était un extrait du nouvel album de Renaud Capuçon, La Saga Twilight, musique Alexandre Desplat sur cet album, donc consacré aux musiques de film.
C'est toujours dans le 16e arrondissement qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Renaud Capuçon qui ont été rejoints par un ami du violoniste.
Nous sommes attablés à la terrasse de chez Carène, place du Trocadéro, avec Renaud Capuçon et Dominique Bluzet. Dominique Bluzet, on dit que, enfin, Renaud le disait tout à l'heure, vous êtes le directeur des théâtres du Gymnase et des Bernardines à Marseille, du Jeu de Paume à Aix-en-Provence, du Grand Théâtre de Provence, qui est également à Aix-en-Provence. On dit que c'est le deuxième pôle de spectacle en France.
Oui, hors opéra, on a 650 salariés, on vend 200 000 places par an. On en est très heureux et très fiers d'avoir réussi une aventure comme ça en province, en dehors de Paris.
C'est quoi le premier pôle alors?
Je pense que c'est la Comédie Française, mais on est à égalité avec le Théâtre de la Ville de Paris. On est, disons, dans le top 5 des grandes institutions de spectacle vivant hors opéra, qui sont des structures un peu plus particulières. Mais avoir réussi à créer ça sur une métropole qui n'a pas... Aix a une image très forte culturelle, mais Marseille-Aix, c'est une métropole jeune. Et avoir réussi à créer une aventure comme ça, qui au quotidien vend 200 000 places par an et donne une nourriture culturelle tous les jours à la population, c'est très important pour moi. Et ça valait la peine de quitter Paris pour faire ça.
Et d'arrêter d'être acteur.
Et d'arrêter d'être acteur, mais ça, je pense que j'étais un bon acteur, mais pas un grand acteur. Et ça vaut juste la peine d'être un grand acteur. Bon acteur, c'est pas suffisant. C'est comme musicien, quoi.
Il paraît que c'est ça le plus important. Il faut savoir en quoi on est bon. À quel moment est-ce que vous avez su, vous, ça?
Je ne sais pas si on sait quand on est bon. Je sais que j'ai su très tôt ce que je voulais faire, ce qui était déjà une chance incroyable. À 8 ans, j'ai voulu être violoniste.
Mais parfois, on veut faire quelque chose, on en rêve et on n'est pas bon.
Et on n'est pas, c'est vrai.
C'est horrible.
Donc j'ai eu cette chance-là d'arriver, d'avoir les moyens de mes ambitions et de l'autre côté aussi. Simplement, c'est vrai que c'est très important dans la vie de savoir ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'il faut ne pas faire. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut pas se mettre des objectifs pour pousser les limites. Ça, je pousse les limites en permanence, mais je sais clairement qu'il y a des choses que je ne sais pas faire et que je ne ferai pas. Et je pense que c'est dangereux. Vous savez, il y a le syndrome de certaines personnes qui, parce qu'elles ont parfois, elles atteignent une forme de notoriété et qu'elles pensent qu'elles peuvent tout faire, du coup. Parce qu'elles ont un nom, elles peuvent. Et ça, c'est un grand risque. Parce que dans ce cas-là, on prend le risque d'abord de se foutre de la gueule du public, pardon, mais d'être un peu ridicule. Et puis au-delà de ça, de se perdre.
Il faut avoir une pensée quand même pour ses parents, parce qu'ils en ont fait deux comme ça.
Trois. Ils ont fait ma sœur Aude, qui est devenue orthophoniste, mais qui était pianiste.
Et votre sœur, la sœur aînée, c'est un peu la sœur de Mozart, parce que c'est elle qui commence. Et puis c'est elle qui arrête.
Elle arrête. Ah, je lui dirais que c'est comme la sœur de Mozart, ça va lui faire plaisir.
Non, parce qu'on ne sait pas que Mozart avait une sœur aînée qui était très, très douée.
Oui. Constance.
Absolument. Et c'est vrai qu'elle s'est consacrée ensuite à l'orthophonie. Et maintenant, deux de ses enfants, un est un violoncelle à l'école de la Haute École de Musique de Lausanne, et sa fille est au Conservatoire supérieur de Paris en danse. Donc c'est quand même formidable que dans tous les cousins, il y a plein d'artistes maintenant.
Et tout ça est né comment? Parce que vos parents n'étaient pas musiciens?
C'est une histoire très simple. On découvre la musique au Festival des Arcs. Il y a de la musique, des concerts gratuits. Mes parents regardent Le Grand Échiquier.
L'émission de Jacques Chancel.
L'émission de Chancel, qui habitait avenue Georges Mandel, juste à côté, que je visitais très souvent. Et voilà, et au même moment, géographiquement, il y a ce festival qui se crée avec les mêmes artistes que ceux qui sont au Grand Échiquier. Donc ils vont au concert, les concerts sont gratuits, ils aiment la musique, ils commencent à acheter des disques et ils se disent, mais on va faire de la musique à nos enfants, c'est tout. Je dis souvent, si les Arcs avaient hébergé un festival de jazz, peut-être que j'aurais étudié la clarinette, le saxophone.
Et si vous étiez pas né au même moment, vos parents, au lieu d'écouter Le Grand Échiquier, auraient peut-être écouté The Voice et vous seriez.
Je suis pas sûr parce que mes parents ont vraiment n'étant pas du tout musiciens, ils ont un goût, une attirance pour cette forme de musique. Et donc je pense que si ça se passait aujourd'hui, ils auraient été attirés par la même musique, peut-être en regardant d'autres émissions, mais je ne pense pas que The Voice aurait été le critère de mes parents, en tout cas.
Mais un truc qu'on retrouve au Festival de Pâques, c'est le désir de rassembler des tribus. Par exemple, il y a la famille Moreau, il y a la famille... Et on fait des concerts familiaux.
La famille Moreau, c'est Edgar Moreau,
le
violoncelliste.
Et sa sœur Raphaël. Et donc, on fait des concerts, frères et sœurs, où on réunit autour de Renaud et Gauthier tous les autres frères et sœurs qui font de la musique.
Il y a les Lamarca,
arrive à 10-12 sur scène et à faire des concerts formidables parce qu'il y a une complicité entre eux extraordinaire.
Mais il y a une complicité, mais il doit y avoir aussi une irascibilité, peut-être, non?
Est-ce qu'on s'engueule plus facilement entre frères? On dit souvent qu'il y a une compétition. Je ne crois pas à la compétition. L'irascibilité, oui. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'on se dit les choses. Moi, je suis le grand frère, donc forcément, j'ai eu une façon de dire les choses à mon frère quand il était plus petit, sans filtre, mais qui m'a bien rendu, parce que lui m'a dit les choses aussi sans filtre, de la même façon. Ce qui est formidable, parce qu'on se dit les trucs, c'est cash. Alors, pour les gens autour, parfois, c'est très spécial. Mais je pense que la difficulté de jouer avec son frère ou sa sœur, c'est qu'en fait, c'est le revers de la médaille des bonnes choses. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses, c'est la connaissance incroyable, la reconnaissance, l'instinct. Tout ça, c'est exceptionnel. Vous n'avez ça qu'avec un partenaire de sang, un lien de sang. Même si vous travaillez des années avec quelqu'un qui n'est pas votre frère ou votre sœur, vous n'arriverez jamais à avoir aussi proche que ça. Donc ça, c'est le point positif.
Moi, c'est ma
sœur qui
programme cette émission, d'ailleurs. C'est elle qui vous a invité.
Et ben voilà, vous voyez. Et par contre, les points négatifs, bah, vous les connaissez, c'est le fait qu'on se connaît tellement par cœur qu'on anticipe déjà, on sait avant qu'on ait dit la question, c'est la réponse, et on sait là où on va s'engueuler. Et puis, c'est les joies de la famille aussi.
Vous travaillez avec vos frères et sœurs?
Non, heureusement, ni avec mes enfants, ni avec ma femme. L'avantage, par contre, c'est qu'il est devenu pour moi une sorte de frère. Il est là, je pense, ce que j'ai dit l'autre jour, il est probablement la plus belle rencontre artistique de ma carrière. Et je pense que le Festival de Pâques, c'est notre plus belle œuvre. quelque part.
Vous vouliez dire votre enfant.
Mais oui, enfin.
Non, si, on peut dire ça, on peut dire ça comme ça, d'un point de vue imagé. On a construit ensemble cette première programmation il y a 7 ans. C'était une vraie gageure. Il n'y avait pas de festival de Pâques. On a inventé quelque chose. On n'a pas repris une idée. On a eu ce désir commun. On a programmé tout de suite une chose extrêmement de haute qualité. On ne s'est pas dit, on commence avec 4-5 concerts, on verra. On a commencé avec 20 concerts tout de suite, avec Harding, avec des grands orchestres, avec des grands chefs d'orchestre, des grands pianistes. Et ce qui est formidable, c'est que ça a pris tout de suite. Pour plusieurs raisons, je pense d'abord parce qu'il y avait une véritable confiance dans le travail qu'avait fait Dominique dans ses théâtres, ses publics, etc. autour, depuis de nombreuses années. Il y a eu une caution du fait que j'étais moi-même interprète et qu'il y avait une forme de, en gros, s'il programme ça, ça peut pas être n'importe quoi parce qu'il connaît. Je pense inconsciemment, ça a joué.
Ce qui est un peu vrai, reconnaître.
Et puis aussi, le fait que la période est propice. Et que le lieu est juste magique. Voilà. Quand vous arrivez, tous mes amis artistes qui arrivent d'Allemagne, d'États-Unis, de je ne sais où, qui arrivent à Aix-en-Provence au moment de
Pâques. On est le seul festival de Pâques où il ne pleut pas, parce que les autres, c'est en Allemagne. Hein.
Allemagne,
donc,
Autriche.
Il fait beau, l'architecture est belle, c'est super sympa, il y a du bon pinard et il n'y a que des belles choses.
C'est à Aix-en-Provence, donc du 13 au 28 avril, le festival de Pâques. Il est né en
2013. La capitale européenne de la culture.
Ah oui, bah vous n'y étiez pas pour rien d'ailleurs. Si Marseille avait été capitale européenne de la culture, c'est un peu à Dominique Bluzet qu'elle le doit. On va vous laisser chez Carette. Nous, on va continuer notre balade. On va chez votre luthier. Hein.
Moi, chez Pierre Bartel, qui est un autre de mes partenaires privilégiés.
Depuis le temps que je passe par la rue de Rome et que je vois tous les luthiers de la rue de Rome, et je me dis, un jour, il faudra que j'entre quand même.
Et bien, embrassez-le pour moi.
On se retrouve là-bas, juste après les infos.
Les titres du journal de la mi-journée en direct du Salon de l'Agriculture, c'est avec vous Fabienne Lemoyle, bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Vous l'entendez en effet peut-être, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture pour ce journal de la mi-journée. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs, nous sommes au cœur du Hall 1 sur le stand France Terre de Lait, superbe studio d'Europe 1, avec dans une demi-heure deux invités pour parler des défis que doit affronter le monde agricole. Patrick Morin qui vient de parcourir à pied 250 km pour alerter sur un sujet qui reste encore très tabou, le suicide des agriculteurs. Il nous dira ce que lui a dit Emmanuel Macron, qui l'a rencontré hier au salon. Et puis nous serons aussi avec Jérôme Leroy, patron de Winat, pour parler de l'agriculture connectée. Dans le journal de la mi-journée, nous reviendrons bien sûr sur les temps forts de l'actualité. Les incendies en Corse depuis hier soir, au moins 1300 hectares partis en fumée. Situation inédite en cette période. Et si tout le monde payait l'impôt sur le revenu, idée lancée ce matin dans le journal du dimanche par la ministre de la Cohésion des Territoires. Une idée qui risque de faire du bruit en plein grand débat national, alors qu'il n'y a qu'un Français sur deux à payer cet impôt. Les mots choquent ce matin du pape qui compare les agressions sexuelles contre les enfants au sacrifice des rites païens. Déclaration à Rome pour marquer la fin du sommet sur les agressions sexuelles au sein de l'Église. Nous verrons que c'est pourtant un discours bien en deçà de ce que l'on pouvait attendre, nous dira Virginie Riva. Le journal des sports avec enfin une victoire pour le 15 de France, 27 à 10 hier face à l'Écosse. Et puis la météo avec grand bleu sur la majeure partie de la France, nous dira Valérie Darmon. Les nuages feront un peu de résistance sur le Poitou-Charentes. Attention au vent qui souffle fort en Corse, ce qui ne facilite pas actuellement le travail des pompiers qui luttent contre les incendies. Quelques températures comptées, 13 degrés à Verdun, 15 à Paris, Charleville-Mézières, 16 à Nice, 18 à Toulouse et jusqu'à 19 degrés à Brive-la-Gaillarde. Et on se retrouve bien sûr en direct du Salon de l'Agriculture dans une demi-heure.
Merci Fabienne. On continue à se balader sur Europe 1. Il est midi, bienvenue. Europe 1, en balade avec Renaud Capuçon, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Renaud Capuçon, le violoniste français le plus célèbre dans le monde. Qu'est-ce que vous faites, Renaud, le dimanche à Paris, quand vous n'avez pas de concert
C'est assez rare que je sois là le dimanche à Paris, si je suis le dimanche, parce que les concerts sont très souvent le samedi, donc il faut que je rentre, etc. Quand je suis là le dimanche, alors c'est vraiment journée famille, donc c'est totalement... dépendant de ce que veulent faire ma femme et mon fils. Et je suis dans ces cas-là le plus souple possible. Et donc ça peut être jouer au tennis avec mon fils, ça peut être aller me promener, ça peut être faire une course, il faut faire une course, rester à la maison si on a envie de simplement jouer au Lego ou de cocooner. Voilà, c'est une vie de papa normal, quoi.
Et de quoi souffrez-vous le plus quand vous êtes en voyage parce que vous êtes en voyage quasiment en permanence.
Oui, beaucoup. J'ai organisé ma vie pour ne pas souffrir. C'est-à-dire que d'abord, je travaille énormément pour réduire le stress que je ne maîtrise pas moi-même. C'est-à-dire que tout le stress que je peux maîtriser, j'essaie de l'éviter. Donc, je ne pars pas au dernier moment. Tout est méga programmé pour que je sois dans un espèce d'état de... À partir du moment où je monte dans le taxi en partant de chez moi pour aller dans une destination, que ce soit New York, Tokyo ou Chalon-sur-Saône ou je ne sais quoi, ou Nice, je suis dans une sorte de... C'est comme... déjà en préparation du concert. Donc l'idée, c'est que le stress n'existe pas.
Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, nous sommes dans un taxi. Hein, on est à... Est-ce qu'on entend là ? J'ai oublié de dire qu'on était dans...
On est en chemin. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Vous avez l'avion qui est annulé, vous avez l'organisateur qui vous dit que la salle n'est pas prête, que le piano n'est pas arrivé. Enfin, les stress que l'on ne peut pas éviter. Donc voilà, donc j'essaie de ça. Ce qui me pèse le plus, parfois, c'est la solitude. Parce que quand vous êtes en concerto au bout du monde et que vous avez... si le chef est un pote, c'est formidable. Si ce n'est pas le cas, que vous ne le connaissez pas et que on se retrouve chacun dans ses chambres d'hôtel respectives. Et on est parfois, c'est vrai, un peu... Quand on est à Tokyo ou en Chine, ou, ça peut être un peu long. Mais pour réduire ça, je pars jamais très longtemps, jamais plus que 10 jours. Donc j'ai plusieurs règles comme ça que je me suis imposées. Et je rentre très souvent à la maison. C'est-à-dire que si je pars une semaine aux États-Unis... Au lieu de faire 3 semaines de suite aux États-Unis, je pars 10 jours, je reviens 3 jours, je repars aux États-Unis. Mais j'ai besoin de passer par la case maison. C'est essentiel.
Mais déjà, durant votre enfance, j'imagine que tout ça était très discipliné, très organisé.
Oui,
on doit faire plusieurs heures de violon par jour. On ne peut pas forcément avoir la vie d'un petit garçon normal.
Alors, on l'a parce que moi, j'étais vraiment absolument normal. J'adorais jouer avec mes potes. J'étais tout à fait social et sociable. Mais j'avais en moi cet appétit de musique déjà et cette passion pour le violon qui faisait que ce que vous venez de décrire, je me l'imposais de façon totalement naturelle. C'était une évidence que le dimanche, je travaillais mon violon 4 heures ou 5 heures et que quand j'avais terminé de travailler, j'allais jouer au foot avec mes copains dans le square, mais je ne l'aurais de moi-même pas fait sans avoir travaillé. Donc j'avais une forme d'autorité naturelle sur moi-même, c'est-à-dire que, mais qui était totalement naturelle. C'était absolument... Et mes parents n'étaient pas du tout... au contraire, c'était eux qui me disaient, tu sais, tu devrais t'arrêter.
Mais qui a dû perdurer par la suite, puisque je me souviens que vous m'aviez dit un jour qu'entre 20 et 30 ans, vous étiez totalement obnubilé par le violon. Vous étiez quasiment dans une bulle.
Oui, c'est ça. Ma femme, quand elle m'a rencontré, m'a dit, en fait, tu vis dans une bulle. Quoi. Elle avait raison. J'ai passé entre, je dirais, 15 et 30 ans, 15 et 20, 25, 26 ans, vraiment dans une bulle, à n'écouter que de la musique, à n'être que dans le violon, la musique. Ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps en fait.
Donc, et beaucoup de prix.
J'ai pas de regrets.
Et beaucoup de prix.
Oui, mais pas tellement, mais surtout apprendre beaucoup de répertoire et tout ça par passion. Et c'est vrai que j'étais un peu monomaniaque sur l'instrument, donc j'étais moins ouvert sur les autres, j'étais moins cool, j'étais un peu en fil tendu permanent sur le. Mais pas pour être plus fort que les autres, mais simplement pour. Comme si j'étais sur une course de fond et que je savais que plus j'allais vite maintenant à ce moment-là. Plus j'aurais ensuite le temps de me développer. Bien sûr, je ne le savais pas et je pensais que ce serait une course de fond toute ma vie. Mais il y a un moment donné où, quand je suis arrivé à 30 ans...
Il y a un grand travail de documentation chez vous, mais j'imagine chez tous les grands virtuoses, non ? On se renseigne beaucoup. Alors, d'autres l'ont fait avant vous, parfois.
Oui.
Ça vous économise du temps. J'ai l'impression qu'on cherche, quand on est musicien classique, on cherche la vérité de l'œuvre telle que le compositeur l'aurait voulu.
Bien sûr.
Là, c'est très différent des jazzmen, par exemple, pour qui il n'y a pas la vérité d'une œuvre. Chacun a la sienne.
Absolument.
Original.
Nous, on passe par le texte, on passe par ce qu'on appelle le manuscrit, le lure-texte, enfin vraiment la substantifique moelle du texte. Alors après, moi, ce qui me passionne, c'est de travailler avec des compositeurs vivants aujourd'hui, parce que les compositeurs vivants, ils sont là. Vous pouvez leur poser des questions, ce qu'on rêverait de faire avec Mozart, Beethoven et Schubert. Mais il faut supputer, il faut se servir des écrits, il faut se servir
qui
des manuscrits.
Qui est celui que vous aimeriez le plus avoir en face de vous?
S'il y en avait un seul, ça serait Bach. Et si Bach, je pouvais choisir
parce que c'est
trois...
celui à qui vous avez le plus de questions à poser ou
oui.
Parce que c'est celui pour lequel vous vous avez la plus grande admiration?
Un peu tout à la fois, mais je pense que c'est très difficile d'en donner un. Si j'en avais un, ça serait Bach. Et si j'en avais trois, je dirais Bach, Brahms et certainement Schubert ou Mozart.
Et alors, quelles sont les questions que vous posez quand vous avez un compositeur vivant en face de lui?
Déjà, il y a quand on joue une création, une œuvre qui est écrite pour vous, on est le premier à jouer. Donc, on imprime de sa personnalité immédiatement l'œuvre. On la joue pour la première fois pour le compositeur. Et là, on pose toutes les questions qu'on a envie de poser.
Ce ne sont que des questions d'ordre musical. Ce ne sont pas des questions d'ordre psychologique ou à quoi pensiez-vous quand vous avez composé cette œuvre.
Ça, on le
sait. Ça, on lui pose, bien sûr.
Mais on le sait, puisque tous les personnages, tous les compositeurs à qui je commande des œuvres, je les connais intimement. Je les connais vraiment bien. Et donc, je connais leur psychologie. Je sais comme je connais leur compagne. Je sais leur façon de vivre. Et c'est vachement intéressant parce qu'on est dans l'intimité du compositeur et après on pose des questions pragmatiques, tel accent, tel diminuendo, tel crescendo, et on se rend compte que la plupart du temps, ces questions, ils n'en ont absolument rien à faire. Ils privilégient toujours l'arche, la dynamique, le phrasé plutôt qu'un mini accent ou même une note. Parfois vous faites une fausse note et le type vous dit, mais compositeur, vous dit, ça n'a aucune importance. C'est pas ça. Par contre, l'accent, là, tu l'as pas bien fait. Ça, c'est important. Et ce qui me fait réaliser à quel point parfois on est trop dans le dogme, dans Beethoven, Brahms, Schubert, Mozart et tous les autres, parce qu'on est en train d'essayer de vouloir faire à la lettre ce que l'on pense être la vraie chose, alors que peut-être que si Mozart vous écoutait aujourd'hui jouer avec peut-être une toute petite différence par rapport à ce que vous pensez être la vraie chose, il vous dirait, non mais tu le fais, c'est pas comme ça que je l'ai pensé, mais j'adore. Parce que combien de fois des compositeurs vivants me disent, écoute, je l'ai pas du tout vu comme ça, mais en fait, je préfère comme tu le fais.
Est-ce que les musiciens classiques d'aujourd'hui n'ont pas une vie trop bourgeoise? J'entends par là que les compositeurs dont vous parlez n'avaient pas une vie si bourgeoise que cela, hein, de leur
c'est
temps.
C'est vrai.
Et que les jazzmen ou les rockers n'ont pas eu du tout une vie bourgeoise.
Alors les compositeurs d'aujourd'hui, bien sûr, pour la plupart, sont peut-être plus confortablement, je dirais, entre guillemets, installés que ceux de l'époque. Mais il existe aussi des compositeurs qui ont plus ou moins de chance dans la vie. Vous avez toutes sortes de catégories.
Je pensais aux interprètes.
Ah, aux interprètes.
Oui. C'est une vie plus rangée, une existence plus bonacale, vous le disiez, plus disciplinée.
Oui et non, mais moi, je suis pas l'exemple. Il y a des gens comme moi et d'autres qui ne sont pas du tout comme moi. Vous avez des grands interprètes qui se couchent à 5 heures du matin, qui boivent beaucoup, qui font la fête tout le temps et qui sont quand même des grands interprètes. Moi, je n'émets aucun jugement. Moi, j'ai besoin de cet équilibre pour arriver à être bon. Si je fais la fête jusqu'à 5h du matin et que je dors pas et que je bois, je serai juste mauvais. Voilà, tout simplement.
Nous voilà devant la façade rouge de l'atelier de Lutry, Pierre Bartel,
60 rue de Rome.
Et bien nous allons y pénétrer.
La balade de Frédéric Taddeï et de Renaud Capuçon se poursuit dans un endroit assez indispensable pour un violoniste.
Nous sommes donc rue de Rome, la rue des luthiers, des magasins de musique. Et au 60 rue de Rome se trouve l'atelier de lutherie de Pierre Bartel. Je vous suis, Renaud
voilà,
Capuçon.
Bonjour.
Salut Pierre.
Ça va bien?
Voilà, nous sommes dans l'antre de ce luthier que je connais depuis 23 ans. J'ai réfléchi un peu avant quand même. J'étais en train de calculer combien d'années on se connaissait. Ça fait 96,
depuis
je crois.
Le premier festival de Deauville.
96, donc. 96.
Ouais. Voilà, juste avant.
Je me suis toujours posé en passant dans la rue de Rome. C'est que je dis, pourquoi est-ce que tous les luthiers s'installent au même endroit?
Normalement, c'est la proximité du conservatoire de Paris de l'époque.
Tout à fait,
hein,
oui.
C'est ça.
Oui, oui, oui.
Le conservatoire supérieur de musique de Paris
qui était rue de Madrid.
Qui s'est transformé maintenant en conservatoire régional. Et le supérieur de Paris est parti à la Villette en 90, l'année où je suis rentré d'ailleurs. On a essuyé les plâtres. Il y avait encore des fuites d'eau un peu partout. Et les luthiers sont restés ici. Et à l'époque, je me souviens, on se posait la question, on se disait, mais est-ce que les luthiers vont venir jusque là-bas? Ils vont plus avoir de travail et tout va bien.
On vient tous vers eux. À part dans une autre rue pour se singulariser.
Il y en a quelques-uns qui sont à 50 mètres en dehors de la rue de Rome.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être luthier, Pierre Bartel?
Déjà, l'instrument lui-même, parce que c'est vrai qu'on est d'abord attiré par l'instrument. En premier, et puis c'était un reportage que j'avais vu où il y avait Étienne Vatelot et Isaac Stern et ils étaient tous les deux en train de discuter, et c'était une atmosphère assez extraordinaire. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire.
Ben, vous avez maintenant le violon d'Isaac Stern.
Oui, oui, non, mais
son nouveau dépositaire, Isaac Stern l'a eu pendant 50 ans, depuis, c'est vous, Renaud Capuçon, donc... Donc, vous touchez le violon d'Isaac Stern ou celui de Renaud Capuçon?
Je pense qu'il a entre
c'est
les mains...
C'est celui de Guarneri.
Bah, exactement. Voilà.
Qui est celui qui l'a fabriqué
désolé,
en 1737.
Ouais.
En 1737. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire aussi bien aujourd'hui que ce que faisaient les luthiers du 18e siècle?
On fait de très bons violons modernes. Après, comparer un instrument qui a été joué pendant des siècles, c'est assez difficile. Et puis après, on pense aussi qu'il y a eu une évolution au niveau des bois utilisés. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus la même qualité de bois, ce qui fait qu'on a du mal à refaire des instruments avec les mêmes qualités.
Là, il faut dire pour les auditeurs d'Europe 1 que nous sommes véritablement dans un atelier, là. Il y a une petite lampe, c'est là où vous travaillez.
La table d'opération,
vous avez là. Vous-même un tablier.
C'est un des endroits. Voilà.
Un tablier comme en ont les cordonniers.
Voilà, exactement. Ouais. Et on a un autre atelier à côté pour faire des restaurations un petit peu plus précises et un peu plus... où on a besoin d'un peu plus de calme.
Puisqu'on parle d'Isaac Stern, vous avez vu ce qu'on dit de lui depuis quelque temps? En fait, c'était un tyran, un vrai parrain dans la musique, qu'il a défait des carrières. Tous ceux qui lui faisaient de l'ombre, il les écartait.
Bon, c'est pas une chose qui est récente. On a toujours dit ça de Isaac Stern. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on dit ça de toute personne qui aide d'autres personnes. Quand quelqu'un aide une dizaine, une vingtaine de personnes, tous ceux qui ne sont pas aidés disent que leur carrière est détruite. Simplement, ils ne sont pas aidés. C'est juste ça, la différence. Et je ne crois pas une seconde. Je pense que c'était quelqu'un qui était extrêmement connu, extrêmement célèbre, qui a mis sa notoriété au service de beaucoup de jeunes. Il a aidé énormément d'artistes. C'est lui qui a découvert Yo-Yo Ma, c'est lui qui a découvert Shlomo Mintz, qui a découvert Guy Cham, qui a payé des bourses, enfin qui a fait en sorte que ces gens aient des bourses d'Israël pour venir étudier aux États-Unis. Comme il avait sauvé la salle de Carnegie Hall et qu'il y avait développé des concerts et qu'il en était le président honoraire, ou en tout cas il avait un lien, il était évidemment normal de dire de lui qu'il décidait qui jouait ou pas dans cette salle, ce qui n'a absolument aucun sens. Et comme il était aussi très lié à la patronne de sa maison sa maison son agence de concert, on disait aussi qu'il contrôlait ça. Simplement, il faisait rentrer dans son agence de concert les mêmes qu'il avait aidés, mais il ne faisait pas rentrer ceux qu'il ne connaissait pas. Donc, il pensait qu'ils étaient... Oui, mais c'est tellement facile de dire ça de quelqu'un qui est... Et on le dit de toute personne qui a un tout petit peu de pouvoir, en fait, de façon générale. Donc, moi, ça me laisse...
Vous pensez qu'on le dira de vous plus tard?
Certainement, à un autre niveau. Et je pense qu'à partir du moment où on fait des choses... Je ne parle pas du pouvoir, mais je pense qu'à partir du moment où on fait des choses pour quelqu'un, et que vous ne le faites pas pour celui d'à côté pense qu'il est mis de côté, alors que parfois vous ne le connaissez même pas.
Quand on parle de violon, on parle toujours d'un objet particulièrement sacré pour un musicien. Ivry Gitlis me disait qu'il ne pouvait pas dormir sans savoir que son Stradivarius était dans sa chambre. Vous avez eu le même problème ?
Oui, oui, c'est pas un problème, c'est une sorte de... C'est vrai que je peux difficilement dormir avec le violon qui n'est pas dans la pièce. C'est uniquement à la maison, parce que ma femme a tellement, tellement, tellement insisté pour qu'il dorme dans la pièce d'à côté, que maintenant, vraiment que j'ai cédé et qu'il est effectivement dans la pièce d'à côté. Mais c'est le seul endroit de la maison, le seul endroit dans ma vie où le violon ne dort pas dans les chambres d'hôtel. Il est toujours
je
à
me
côté
souviens de vous dans un mariage en Angleterre chez un ami commun, et je vous voyais vous promener, vous aviez toujours votre violon sous la main, sous le bras, parce que vous ne pouviez pas le laisser au vestiaire.
Non, au vestiaire, c'est exclu. Et puis, on a beau vous dire qu'il y a une pièce sécurisée, regardez s'il y a un incendie, s'il y a un vol, s'il y a...
Mais ici, Pierre Lutel, s'il y a un incendie, s'il y a un vol...
On a une pièce sécurisée.
On est en sécurité.
Il n'y a pas de risque.
Le vôtre, vous ne l'avez pas acheté, il vous a été prêté par une banque.
Il m'a été prêté pendant 15 ans, je l'ai
vous l'avez
pendant
acheté
10 ans, je l'ai acheté il y a 2 ans, ce qui ne veut pas dire que j'ai terminé de le payer, loin de là. J'ai fait le plus gros emprunt de ma vie pour cet instrument, mais c'est une grande satisfaction, enfin en tout cas un encouragement incroyable de savoir que cet instrument maintenant m'appartient, même si on dit quand on parle d'une façade d'une maison, elle appartient à ceux qui la regardent et pas à ceux qui l'habitent. C'est la même chose pour un instrument. Même s'il m'appartient, il appartient à ceux qui l'écoutent. Et je crois que c'est
surtout
vraiment la particularité.
Vous savez aussi qu'il appartiendra à quelqu'un d'autre après.
Évidemment. Vous. C'est pour ça que donc je suis heureux d'avoir pu l'acquérir, mais sachant qu'un jour, il sera joué par quelqu'un d'autre et j'en serai très heureux.
tous ces violons qui passent entre vos mains en tant que luthier, vous les voyez comme des objets très très différents selon leurs propriétaires, selon la façon qu'on a de les jouer?
Mais déjà, chaque instrument est différent. Deux instruments du même auteur sont de toute façon différents et ont chacun des caractéristiques bien, bien particulières. Après, je pense qu'on marque, mais c'est plus au niveau de la sonorité. Chaque musicien va marquer l'instrument par son jeu.
Il y a une empreinte, ouais, je pense, ouais. Vraiment. Il y a une empreinte de... Après, regardez, le violon a été joué 50 ans par Isaac Stern, mais je le joue avec une toute autre sonorité. Mais Isaac Stern a marqué cet instrument et il l'a façonné de sa sonorité. C'est-à-dire que le bois a vibré de sa façon de jouer. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je le fais vibrer d'une autre façon, mais qui a été, je dirais, mis en vibration pendant 50 ans par Stern, donc d'une façon incroyable, avec des conditions de concert, de travail acharné. Et donc, il a vibré des heures, des heures et des heures. C'est ce qui fait qu'on peut difficilement, ce que disait Pierre tout à l'heure, comparer un instrument comme le mien qui a été joué mais pendant des années à un stade, même en heures ou en jours, incroyable, avec un violon qui viendrait d'être construit, qui aurait certes de magnifiques qualités, mais qui ne peut pas être comparé tout de suite.
Eh bien, ce violon, on va l'entendre interpréter Le Mépris, la musique de Georges Delerue, la musique du film de Jean-Luc Godard. C'est le thème de Camille. Camille, c'était Brigitte Bardot dans le film. On vous écoute. C'est un extrait de votre dernier album, Cinéma. C'était Le Mépris, la musique de Georges Delerue, interprétée par Renaud Capuçon. On se retrouve dans un instant dans l'atelier de lutherie de Pierre Barthès.
Vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et Renaud Capuçon dans les rues de Paris.
Nous sommes au 60 rue de Rome avec Renaud Capuçon dans l'atelier de Pierre Bartel, fameux luthier de la rue de Rome, l'un des fameux luthiers de la rue de Rome, puisqu'il y en a, puisqu'ils sont tous là.
On est assez nombreux, oui.
Vous-même, vous jouez un peu de violon ?
Pas du tout.
Et donc, quand vous avez fini d'entretenir, de réparer un instrument, vous êtes incapable d'en tirer un son ?
Il va au resto.
J'ai pris des cours de violon quand j'ai fait mes études de lutherie, mais ça n'a rien à voir avec ce que peut faire un violoniste. Donc, ce qui est important, c'est de faire jouer l'instrument par son interprète.
Donc, tant que Renaud n'est pas venu récupérer son violon, vous ne savez pas si vous l'avez correctement réparé.
Alors, j'ai quand même une petite idée, même sans le jouer.
Ah bon, quand même.
Non, et puis, ce qu'il faut noter, c'est l'écoute. C'est-à-dire que l'interprète fait confiance à son luthier pour son oreille. Pour ses qualités de digital, je dirais, d'être capable de bouger le petit bâton qui est à l'intérieur, l'âme qui fait la sonorité du violon. Mais sans une oreille, un luthier ne serait rien. Pour le réglage, ce que j'appelle le réglage, donc parfois c'est un millimètre, parfois moins, on bouge l'âme et donc ça se passe en présence bien sûr de l'interprète. Moi j'arrive ici, toujours dans cette pièce, parce qu'on est habitué à régler le violon dans cette pièce-là, et je joue pour Pierre, et puis je lui dis écoute, je trouve que le violon est un peu fermé en ce moment, et même si je lui disais rien, il sait, il connaît cette sonorité, il connaît ce que j'aime, il connaît le violon. Alors il y a un problème technique avec l'instrument qui fait qu'il est décollé ou quoi. Donc, dans ce cas-là, il y a une réponse pragmatique, on le recolle ou on le répare, etc. Mais la plupart du temps, ce sont des problèmes psychologiques du violoniste.
J'allais vous dire, c'est vos humeurs peut-être.
Oui,
qui transparaissent.
Donc il y a ça, qui est un facteur important. Donc un luthier est aussi un psychanalyste, c'est vraiment le médecin du violoniste, un médecin mental très important. Un soutien aussi, quelqu'un qui va lui dire, écoute, voilà, qu'il rassure au moment où il ferme sa boîte et il part pour son concert. Quand Pierre me dit tout est OK et s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, c'est une double sécurité. Voilà. Mais au-delà de ça, quand on règle l'instrument, on fait plusieurs allées-venues où voilà, il bouge l'âme, on rejoue, je rejoue, je dis c'est un peu mieux. Mais et il entend en même temps que moi et il chemine en même temps que moi. Je n'ai pas besoin de lui expliquer ce que je veux. Il devine à l'avance par rapport au son qu'il entend et que moi j'aimerais avoir, et ce qui implique une grande connaissance de l'interprète, parce que vous pouvez lui donner un violon à régler, il va faire le mieux qu'il peut, enfin lui ou un autre luthier, mais si vous ne connaissez pas l'interprète, un réglage pour monsieur X ou monsieur Y peut être complètement différent.
Il est comment, Renaud Capuçon? Vous avez une lecture
musicien
que personne d'autre n'a.
Non, c'est assez facile de faire des réglages, par exemple, avec Renaud, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut, il connaît très bien son instrument, donc on a, en général, on passe 5 minutes, 10 minutes.
Dans les pires, pires moments, on passe 20 minutes. Ouais. Et si c'est plus que 20 minutes, c'est qu'il y a un vrai problème.
Il y a un problème.
Le problème est un vrai problème psychologique.
Mais permanent. Ça, c'est permanent parce que le violoniste doute. Enfin, en tout cas, si je parle de moi, je doute en permanence. Et le jour où j'arrêterai de douter, il faudrait que je range mon instrument et que je mette à jour un café ou que je fasse autre chose. Le doute fait partie de l'être artistique. Et donc, je sais exactement ce que je veux. Mais ce qui ne veut pas dire que je suis satisfait à 100% et que je ne doute pas en sortant parfois de l'atelier. Parfois, on a fait un réglage ensemble et arrivé chez moi, je me dis mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait, etc. Et le jour où ce doute s'arrête, d'une certaine façon, c'est que l'intérêt d'être sur scène sera réduit. Il faudrait vraiment
mais
que j'arrête.
Vous faites un métier, j'ai l'impression qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas s'arrêter, mais même très peu de temps. Sinon, tout de suite, on perd son niveau.
Ça, je ne suis pas très d'accord avec ça. J'en étais persuadé jusqu'à ce que ma femme, un été, m'impose de ne pas prendre le violon pour partir en vacances, ce qui a été un cauchemar pour moi les 3 premiers jours. Et puis, finalement, j'y ai pris goût. Et depuis...
Vous n'avez pas eu l'impression de jouer un peu moins bien quand vous avez repris le violon ?
Ce qui est étonnant, c'est que j'y ai pris goût parce que, par expérience, maintenant, quand j'arrête 3 semaines, en tout cas 2 semaines sans toucher l'instrument, il est dans la boîte, il ne bouge pas. Je l'ouvre tous les 3 jours pour vérifier qu'il va bien, mais comme on vérifie si la plante a bien...
Comme on touche son portable 300 fois par jour.
Et donc juste vérifier, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est comme un détox. Vous reprenez l'instrument au bout de 2 ou 3 semaines avec une joie de jouer qui est décuplée.
2 ou 3 semaines, c'est quand même très peu de temps. Je pense que vous ne pourriez pas prendre cette année sabbatique dont je vous entends parfois parler dans les interviews. Ça me semble invraisemblable.
Bon, d'abord, l'idée de l'année sabbatique fait rire systématiquement tout le monde dans ma famille quand j'en parle. Ils sont tous morts de rire, ils me disent change de sujet parce qu'on sait que tu es incapable. Mais rien que pour ça, ils risquent d'être surpris un jour parce que je vais le faire. Mais pour fermer la parenthèse, je pense que, oui, au-delà d'un mois, je pense que, et selon sa morphologie, vous avez des gens aussi qui auraient besoin, même au-delà d'une semaine, de refaire des exercices, etc. Ça dépend de quel rapport on a de tension sur son instrument. Moi, j'ai un rapport assez sain, donc je ne suis pas du tout tendu sur mon violon. Mais quand même, je pense qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, on mettrait plus de temps à se remettre.
Pierre, il vous arrive d'avoir parmi vos clients quelqu'un qui a un très très bel instrument et qui en joue très très mal ?
Je vais y aller là.
Je pensais évidemment pas à Renaud.
On peut avoir des amateurs qui ont de famille un très bel instrument.
Par exemple, oui, il vient, vous le réparez, il se met là pour en jouer, et puis vous dites, c'est pas possible. Story.
Oui, il est très diplomate, mais il arrive aussi qu'il y ait des interprètes qui ont des magnifiques violons et qui n'en jouent pas bien.
Oui, tout à fait.
De façon générique, pas forcément ici ou là, mais ça existe. Général, et comme vous avez des violonistes exceptionnels qui jouent parfois sur des violons absolument innommables.
Malheureusement, oui, tout à fait.
Ça, c'est toujours une grande injustice.
Quels sont vos prochains concerts, Renaud Capuçon?
Les prochains concerts, eh ben je joue cette semaine, à la fin de la semaine, à Lyon, où je suis en résidence avec l'Orchestre National, un programme où je joue et je dirige. Et puis ensuite, je jouerai le concerto de Stravinsky à Berlin avec Ivan Fischer. Et puis, puis la suite, bien sûr, le Festival de Pâques,
Festival de Pâques en Provence.
Et puis d'innombrables lieux d'arrêt dans ma vie musicale.
Eh bien, notre balade se termine ici. Renaud Capuçon, merci de nous avoir emmenés avec vous. Je remercie Pierre Bartel et son atelier de lutherie. Je remercie également la librairie Lamartine, la fondation Saint-Gerre-Polignac, chez Carette. Je vous souhaite un bon festival de Pâques. Il aura lieu du 13 au 27 avril. Et je rappelle que Cinéma, votre dernier album consacré aux musiques de films, est sorti chez Erato. Bon dimanche, on se retrouve dimanche prochain à la même heure.